Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. 30 romans pour 30 millions de lecteurs au cours de 30 ans d'une vie d'écrivain. Ah, derrière ce triomphe éditorial, bien sûr, il y a un homme qui croit au monde parallèle, au langage des fourmis, aux anges, à l'hypnose régressive, au pouvoir de ce qu'on croit être le hasard, aux chats, aux abeilles, aux rêves lucides. Bref, un homme qui croit aux signes et qui aime la vie. C'est Bernard Werber qui, pour la première fois, nous ouvre les portes de son atelier d'écriture avec « Mémoire d'une fourmi » qui paraît chez Albin Michel. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour Isabelle.
Cher Bernard, « Mémoire d'une fourmi », bon, bah, tout est dans le titre, hein. Même quand il s'agit du récit intime des expériences qui ont fait de vous un auteur, cette petite bestiole, la fourmi, vous poursuit. Mais alors, quel genre de fourmi êtes-vous donc ? Vous êtes une fourmi moralisatrice ? Une fourmi laborieuse ? Une ouvrière ? Ou est-ce juste un hommage légitime à cet insecte qui a fait votre gloire planétaire ?
Ah, c'est une gratitude envers cet insecte, comme vous dites. Je trouve que ce qui est intéressant dans la fourmi, c'est qu'en général, on pense à elle comme le contraire de l'individu particulier. C'est une fourmi parmi d'autres fourmis. Et j'aime bien cette idée, je ne suis qu'une fourmi parmi d'autres. Maintenant, j'ai quand même ma mémoire, comme une vraie fourmi d'ailleurs, a sa propre mémoire. Et c'est ça que je voulais partager, c'est-à-dire cette trajectoire, et expliquer en même temps comment mes lecteurs pourront eux-mêmes mesurer leur propre trajectoire, qui sont eux-mêmes des fourmis quelque part.
Alors, plutôt que de parler d'intelligence animal, vous préférez toujours parler de conscience animale. Une conscience qui rend cet animal adaptable, en fait, bien plus que notre intelligence.
Alors, le problème de l'intelligence, ça permet de sortir des labyrinthes et ça permet de résoudre des énigmes mathématiques, mais ça ne permet pas d'être heureux. La conscience, c'est une autre notion, c'est prendre
mais
conscience...
Mais l'animal serait heureux. Ah. La fourmi est-elle heureuse ?
Je pense que les fourmis se posent moins de problèmes que beaucoup d'entre nous et qu'il y a très peu de suicides, voilà déjà, et qu'il y a très peu de dépression, qu'il y a très peu de folie. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'une fourmi toute seule peut partir à l'aventure, une fourmi toute seule peut proposer quelque chose à l'ensemble de la communauté et une fourmi toute seule peut décider de quitter la fourmilière, contrairement à ce qu'on pense, et vivre seule dans la nature. C'est-à-dire elles ne sont pas bloquées, ce n'est pas une société totalitaire, ce n'est pas cette société policière que... on estimait jadis. En fait, c'est des individus qui, librement, consciemment, ont décidé de vivre ensemble.
Et oui, c'est ça qui me plaît. Je faisais la comparaison entre la conscience et l'intelligence. Oui. L'intelligence permet de faire tout ce que vous venez d'évoquer aussi. L'intelligence... Or, vous préférez parler, pour le monde animal, de conscience.
Mais même pour l'être humain. Il peut y avoir des êtres humains intelligents et pas conscients. Il peut y avoir des êtres humains pas intelligents et conscients. Par exemple, le rapport à la nature, le rapport de l'homme à la forêt, à l'arbre, à sa planète, c'est de la conscience. Et vous pouvez être très intelligent et faire des horreurs et vous rendre malheureux. Et vous pouvez être très stupide, selon les critères des autres, puisque l'intelligence, c'est quand même une grille de lecture, et faire des choses formidables, tout simplement parce que vous vivez en osmose avec votre entourage.
Alors Bernard Werber, vous dites... Dès qu'on observe notre monde avec un regard qui n'est pas celui de l'homme, eh ben on voit tout autre chose. Pourtant, comme Jean de La Fontaine, vous faites de l'anthropomorphisme.
Oui, parce que vu que je m'adresse aux hommes à travers le livre en utilisant le langage d'homme, j'essaie de faire juste une projection de la pensée. C'est-à-dire, imaginez que vous soyez, je ne sais pas, par exemple, un extraterrestre, ou vous soyez un ange, ou que vous soyez un dauphin, ou que vous soyez un chat, imaginez qu'est-ce qu'il pourrait percevoir en nous observant. Et rien que faire ce petit pas de côté nous offre une perspective. Et la perspective nous amène à penser différemment. Et c'est tout le jeu, le pouvoir du roman, c'est cette idée, faire un petit pas de côté. Sinon, on a tout le temps les mêmes histoires dans tous les romans, qui sont des êtres humains qui se posent toujours les mêmes questions et qui tournent en rond.
Alors revenons à vos confidences, justement, dans Mémoire d'une fourmi. Vous avez eu toutes sortes d'animaux de compagnie hein, dans l'enfance. Oui. Vous avez eu des poissons, des tortues, des hamsters, des cochons d'Inde.
Sœur aussi.
elle appréciera.
C'est un animal de compagnie.
Voilà, exactement. Mais celui qui vous fascina le plus n'était pas de compagnie. Vous l'observiez des heures durant dans le jardin de vos grands-parents, parce que, dites-vous, les fourmis étaient les seuls animaux qui bâtissaient devant vous des villes et des routes sans s'enfuir à votre approche.
Oui, si vous approchez d'un lézard, il file, ou d'une grenouille, mais une fourmi, vous mettez le doigt sur la piste, elle monte sur vous, et je crois que en fait, tout ce que j'ai réussi est issu d'une rencontre, comme E.T., vous savez, dans le film. C'est une rencontre avec un intraterrestre, c'est pas un extraterrestre. Oui. Et à partir de là, je me suis dit, s'ils construisent des villes, ça veut dire qu'ils se posent les mêmes problèmes que nous qui construisons aussi des villes. Si les fourmis ont des routes, si elles ont une agriculture, si elles ont des armées, c'est qu'elles sont en train de vivre des choses similaires à nous. Et à partir de là, ça devait être la première nouvelle, j'avais 16 ans, j'ai écrit une petite histoire où j'ai imaginé que j'étais une fourmi. Et c'est cette histoire qui n'a pas arrêté de grandir pour devenir le roman
une saga.
Les fourmis.
Voilà. Mais vous aviez quel âge quand vous êtes lancé dans l'élevage de fourmis? Parce que vous avez fait ça.
Alors, j'ai fait l'erreur de base de l'enfant débutant qui veut avoir une fourmilière captive. C'est que j'ai pris toutes les fourmis et je ne savais pas que si on n'a pas la reine, en fait, ils ne peuvent pas survivre. Donc, j'avais des fourmilières en pot que j'observais, que je nourrissais, mais je n'arrivais pas à les faire survivre longtemps. Et c'est après, quand j'ai écrit le roman, que j'ai commencé à faire ma doc, je me suis dit, tant que je n'ai pas la reine, ma cité n'existe pas.
Mais tout ça, en fait, ça vous a donné à réfléchir sur notre propre condition. Oui. C'est-à-dire, et si nous étions, nous aussi, observés par un être géant qui aurait pouvoir de vie et de mort sur nous? Quand vous observiez dans vos pots de confiture, justement, ces armées de fourmis qui vous étaient soumises. C'est à cette période-là que vous êtes mis à écrire vos premières nouvelles sur des mondes parallèles, justement?
Oui. Ma toute première nouvelle, donc, c'est quand j'avais 8 ans, j'écris « Souvenir d'une puce qui escalade un être humain », mais c'était déjà le concept d'un être non humain qui a une autre dimension et qui nous perçoit différemment. Après, il y a tout le temps eu cette réflexion sur « essayons de sortir ». J'allais dire, c'était peut-être lié au fait que je vivais mal et l'école et la famille et le monde normal. Je me suis dit « essayons de voir si j'en faisais pas partie, si j'étais extérieur ». Qu'est-ce que je percevrais? Et cette vision est possible dès le moment où vous devenez romancier, où vous écrivez des histoires. Donc j'ai commencé à écrire des histoires très vite pour essayer déjà de me faire plaisir en posant cette vision. Et maintenant, j'ai la grande chance de gagner ma vie avec ce système.
Voilà. Mais alors, pour écrire Bernard Werber, sans parler du style, bien sûr, mais il ne suffit pas d'avoir de l'imagination. Il faut savoir structurer un récit. Or, en vous lisant, justement, en lisant « Mémoire d'une fourmi » qui vient de paraître chez Albin Michel, j'ai découvert qu'à l'âge de 11 ans, dans votre collège, vous aviez rencontré un prof tout à fait étonnant qui vous avait appris la construction d'avions modèle réduit, en balsa, qui est un bois très, très, très léger. Et curieusement, vous dites que cet enseignement-là vous a servi, en fait, à créer vos plans de roman, bien des années plus tard.
Oui, parce qu'il y a un dessin, il faut dessiner la structure, après il faut poser les éléments, après il faut que tout tienne, et on pose une toile dessus, et j'allais dire, le dessin c'est le plan, les éléments c'est les scènes, et ce qu'on pose, la toile tendue, huilée dessus, c'est quelque part le style. Donc vous, quand vous regardez un avion en balsa, vous ne voyez que la toile, mais en fait c'est parce qu'il y a derrière toute une structure solide. Et après, une fois qu'on a fabriqué l'avion, il faut voir est-ce qu'il vole. Et c'est la perception que j'ai d'un bon texte. Un bon texte, il faut une structure cachée solide et il faut que ça puisse voler, ou en tout cas faire voler les lecteurs.
Bon, et à cette époque, vous avez commencé à consigner dans un énorme cahier parce que vous étiez effrayé par le fait de n'avoir pas du tout de mémoire. Donc vous avez commencé à consigner dans un énorme cahier tout ce qui vous semblait digne de n'être surtout jamais oublié, c'est-à-dire des citations étonnantes, un récapitulatif par exemple de l'histoire de l'univers, du Big Bang à nos jours, tous vos rêves, des photos, des dessins, ce qui vous surprenait, vous intriguait. Bref, vous êtes constitué carrément une encyclopédie perso.
Oui, des recettes de cuisine aussi.
Même.
Mais oui, c'est en fait le drame et peut-être ma chance, c'est que je me suis aperçu que j'étais incapable de retenir une récitation à l'école, donc j'étais déjà un peu
handicapé par ce manque de mémoire.
Oui, je crois que j'étais un mauvais élève parce que le système scolaire nous demande de mémoriser, faire
du par cœur.
Donc j'étais bon que dans les zones où on me demandait d'être créatif ou imaginatif, et toutes les zones où on me demandait du par cœur, en fait, c'était l'effondrement total. Et donc à partir de là, j'ai compris que j'ai cet handicap, il va falloir que je fonctionne sans mémoire. Et je me suis mis à fabriquer cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, dans lequel je notais tout ce que je découvrais d'extraordinaire que je ne voulais pas oublier. Et ces cahiers se sont mis à gonfler, à devenir de plus en plus nombreux.
Mais vos parents avaient le droit de les feuilleter? Ils n'étaient pas du tout au courant?
Non.
C'était caché dans votre chambre?
Mais je vais vous dire le plus drôle, je crois que personne ne les a, en dehors de moi, ne les a vus. C'est-à-dire, je les ai, mais je ne les ai jamais montrés à personne. J'allais dire, il y a des extraits dans mes romans, puisque j'en ai repris des éléments. Mais le cahier d'origine...
Quels éléments avez-vous repris dans vos romans?
Ah ben, tout ce qui est encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est-à-dire toutes les zones en caractère gras, où je signale, comme je disais, par exemple, des recettes de gâteaux, des éléments historiques extraordinaires, des découvertes scientifiques, tout ce qu'on ne trouve pas facilement dans les médias ou même sur Internet maintenant, mais que j'ai découvert de particulier. Puis je notais aussi tout ce que je découvrais dans les autres formes d'art, c'est-à-dire ce que je découvrais en peinture, en musique, c'est-à-dire tout le ressenti par rapport à la richesse de ce monde. Et surtout, cette idée
de ne pas oublier. En fait, vous refabriquiez un monde qui vous plaisait, un monde que vous trouviez harmonieux. Vous réinventiez votre propre univers.
En fait, au moment où vous me le dites, je me demande si je ne suis pas un peu autiste. Parce que je crois qu'en effet, j'ai commencé très jeune à fabriquer mes propres univers parce que celui-ci ne me convenait pas vraiment.
Cher Bernard, 15 ans, bon, c'est l'âge de toutes les guerres hormonales et c'est l'âge des grandes amours. Vous avez d'autres préoccupations à 15 ans. Vous préparez, sans le savoir, votre vie d'auteur de fiction et de science-fiction. Vous lancez un journal complètement fou à l'intérieur du lycée et vous inventez le concept de la bande dessinée parfumée musicale, soutenue par votre proviseur, ça c'est tout à fait surprenant, qui met d'ailleurs à votre disposition une vraie imprimerie offset, soutenue aussi par un industriel toulousain qui vous offre un orgue à parfum et par les dessinateurs de l'école des beaux-arts de Toulouse, pas très loin de votre lycée, qui dessinent donc les histoires que vous imaginez. Donc à 15 ans, bah vous devenez carrément le patron d'une maison d'édition, à vous seul.
Non, peut-être pas. On faisait un tirage d'un journal qui s'appelait au début La soupe à l'Ozène. Et qui avait
Soupe à l'Ozène, c'est curieux comme titre. Hein.
C'est parce que le lycée où je me trouvais était le lycée Ozène à Toulouse.
D'accord.
Et donc il fallait quand même faire un lien pour le proviseur, vu que le proviseur m'a donné une formation d'imprimeur offset et une formation de parfumeur. Il fallait pour le remercier que le journal et le titre aient une référence au lycée. Et en effet, je crois que j'ai commencé à naître le jour où j'ai commencé à publier, quoi, faire des histoires qui sont lisibles par les gens. Et ça a été une vraie révélation.
Vous tiriez à combien d'exemplaires, journal?
Le premier
c'est
exemplaire...
C'est beaucoup, 3000?
C'est 3000 sur... Non, c'était beaucoup parce que surtout, quand je fabriquais les parfums, on le mettait sur un petit carton qu'on mettait sous cellophane avec un scotch à l'intérieur du journal. Donc l'idée, c'était de faire des histoires qui ont leur propre parfum. C'était pour avoir une immersion encore plus totale avec les odeurs. Et il fallait le coller à la main. Je peux vous dire, 3000 journaux à la main.
Vous étiez seul pour faire ça?
Non, je n'étais pas seul. On était 4 ou 5, mais on avait les doigts complètement gonflés à force de couper du scotch et de mettre des sous-cellophane. Et puis surtout, ma chambre qui servait de lieu pour qu'on fasse ça.
Vous aviez installé l'orgue à parfum, offert donc par cet industriel toulousain, dans votre chambre. Il devait quand même être très intrigué, sinon contrarié vos parents, non?
Non, personne ne pouvait pénétrer dans la chambre parce qu'elle sentait très très fort. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous achetez un parfum, il est extrêmement dilué. C'est, je ne sais pas, je dirais 90%, peut-être même 95% d'alcool et un tout petit peu d'essence. Et là, moi, j'avais...
C'était des essences pures.
Voilà, c'est des essences pures. Et quand vous posez un petit peu d'essence pure sur un coussin, vous pouvez le laver, ça sent toujours. En fait, c'est hyper puissant,
les parfums. Mais vous parveniez à dormir la nuit?
On s'habitue à tout.
Mais alors, vous deviez laisser un sillage incroyable dans le lycée. Vous étiez parfumé.
Tout était... Voilà. J'essayais de faire des parfums qui ne sont pas des parfums sucrés. Donc, j'essayais de faire le parfum de la pluie, le parfum de la terre, le parfum du bois.
Non.
Et le parfum du chocolat.
Donc, vous jouiez à l'alchimiste, à l'apprenti laborantin, à l'intérieur de votre chambre pour recréer les parfums du monde, quoi.
Mais l'avantage, vu que c'était censé être le parfum de l'histoire, les gens n'allaient pas vérifier si ça sentait bien le bois ou le fer ou le chocolat. Il y avait une musique à écouter, en même temps qu'on lisait donc une bande dessinée dont j'avais fait le scénario et dont mon dessinateur avait fait les illustrations. Et nous étions une bande d'amis et on s'amusait beaucoup. On avait l'impression d'inventer le monde avec un nouveau média.
Mais financièrement, Bernard Werber, vous vous y retrouviez? Ça coûtait beaucoup d'argent, tout ça.
On avait un secret, je vais tout raconter,
pas dans le livre. J'adore qu'on me dévoile les secrets.
C'est qu'il y avait un des journalistes qui s'appelait Éric Le Dréau, qui avait une sœur qui s'appelait Nathalie Le Dréau, qui était sublime. Et elle était tellement mignonne qu'elle s'est mise à l'entrée pour aider à la vente du journal. Les gens n'osaient pas lui refuser le journal. Ça suffit à faire décoller un petit journal de lycée.
Voilà.
Et si elle m'entend, je la remercie.
Merci Nathalie.
Merci Nathalie. Et c'est grâce à elle que le journal a pu, en tout cas, avoir un système économique viable. Ça devait correspondre à 2 francs l'exemplaire.
Ça ne vous laissait pas une minute pour les études.
Si, parce qu'il y avait quand même les études, mais j'étais dans un lycée dans lequel l'ambiance était très cool. Déjà, on était sur 30 élèves, il y avait 20 filles et 10 garçons, et c'était un lycée économique, mais comment dire, j'ai eu beaucoup de chance en fait de tomber dans ce lycée.
Oui, il faut remercier à nouveau le proviseur, quoi.
Et aussi, je me rappelle un professeur d'économie qui s'appelait Schuft, qui m'a dit, tu sais, ça te sera plus utile de découvrir l'économie en créant ce journal et en vivant avec ce journal plutôt que en suivant mes cours. Donc, je te dispense de venir à mes cours et je te mettrai des bonnes notes.
Incroyable.
Comme ça, tu pourras passer.
Bon, et alors, tout naturellement, bien sûr, votre passion enfantine pour les fourmis est réapparue. Alors, à cette époque-là, sous la forme d'une nouvelle de 10 pages dans ce journal, mais en bande dessinée. Vous parliez de l'Empire des fourmis comme d'une civilisation parallèle apparue sur Terre il y a 120 millions d'années. Le chiffre est exact. Hein, alors que nous, pauvres humains, ça fait seulement 3 millions d'années.
C'est une sorte de science-fiction basée sur quelque chose de réel. Enfin, je découvrais que c'est comme si on avait des petits extraterrestres, c'est juste qu'on ne leur accorde aucune attention.
Mais vous faisiez de véritables recherches scientifiques. Oui. Tout ça était très nourri, très argumenté.
Oui, parce que en fait, quand on s'intéresse vraiment à quelque chose, donc là au fond, on s'aperçoit que c'est vraiment merveilleux. Et ce que j'ai découvert en faisant ma documentation était plus fort que tout ce que je pouvais imaginer.
Alors malgré toutes ces occupations passionnantes, Bernard Werber, je veux dire avec un petit peu de chance, vous avez décroché votre bac, vous avez pris le chemin de la faculté de droit, et puis comme les cours n'avaient lieu que l'après-midi, vous avez décidé que désormais, tous les matins de votre vie serviraient à faire de vous, donc, un écrivain. Alors en quelques mois, la nouvelle de 10 pages sur l'Empire des fourmis est devenue une saga de 1000 pages, mais une saga de 1000 pages que vous avez réécrite un nombre hallucinant de fois, en gardant toujours pour héroïne, bien sûr, les fourmis. Qu'est-ce qui ne collait pas? Pourquoi vous la... Enfin, c'est insensé le nombre de fois où vous avez intégralement tout remanié. C'est le scénario, la structure, le manque de suspense, parce que vous n'avez jamais remis en cause le sujet.
Oui, en fait, à chaque version, j'apprenais quelque chose de nouveau. En fait, le plus difficile, c'est en effet le mot que vous avez utilisé, c'est suspense. Le suspense, c'est ce qui vous donne envie de tourner les pages. Et c'est cette technique...
Fameux turnover.
Voilà, c'est cette technique que j'ai mis 12 ans à améliorer. Au début, je n'avais pas cet effet-là. C'est-à-dire que j'avais une histoire avec une héroïne fourmi, avec des différentes péripéties, mais je n'avais pas compris qu'il fallait frustrer un tout petit peu le lecteur, mais pas trop, pour lui donner envie de tourner les pages, et que ça se gère. Et que le vrai art du conteur, c'est de donner beaucoup, mais pas trop, telle manière qu'il a envie d'en avoir un peu plus.
C'est très intéressant cette histoire de frustration.
Ah oui.
Voilà, la dernière page d'un chapitre, il faut qu'elle soit infusée par un petit peu de frustration pour que vite on tourne la page.
On a envie, exactement. Et c'est cet art-là, c'est ça qui m'a pris 12 ans, c'est apprendre à frustrer un peu le lecteur pour mieux le satisfaire à la fin. Mais je crois que ça sert à beaucoup de choses.
C'est comme ça en amour. Hein.
Voilà. Je n'osais pas le dire, mais il y a un peu de ça. C'est que si vous donnez à l'autre ce qu'il demande, en fait, il ne va pas être content. Il faut lui donner un peu de ce qu'il demande, mais pas complètement. À ce moment-là, il y a du désir et il y a une dynamique qui démarre. Et c'est le principe de la vie.
Mais revenons au récit donc sur les fourmis. J'ai appris que vous aviez même pris des cours de criminologie, Bernard Werber, pour construire de manière encore plus inquiétante vos intrigues justement au pays des fourmis.
Peut-être pas.
Vous êtes allé loin.
La criminologie, c'est les cours les plus intéressants qui existent en faculté.
Et pourquoi c'était en fac de droit, donc.
En fac de droit. Le droit, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Enfin, surtout parce
d'ailleurs, vous avez abandonné assez vite.
J'ai échoué mon examen de première année, puis j'ai réussi la deuxième année, puis après j'ai re-échoué. Je me suis dit, ok, laissons tomber. Et puis j'ai fait la crimino. Et la crimino, on nous apprend à être des agents secrets. On nous apprend à être... des enquêteurs, des policiers, enfin tout ce qu'on voit dans les séries policières, on avait des cours, et on avait des cours sur les serial killers, on avait des cours sur la balistique, on avait des cours sur les grands crimes, le terrorisme. C'était passionnant. Contrairement au droit qui était sur les couples qui se disputent et puis la gestion de l'héritage, ce que je trouvais plutôt ennuyeux. Et c'est vrai que ça m'a inspiré de monter une petite troupe de théâtre dans laquelle j'ai essayé de mettre en scène des enquêtes policières. Et ça m'a aidé à créer aussi dans les fourmis une sorte de mécanisme de type enquête policière, c'est-à-dire on va découvrir quelque chose, mais ça va être révélé progressivement. Essayez de trouver, mais vous allez voir, après, vous allez être surpris. C'est toujours cet effet de tour de magie. Un bon roman, une bonne histoire, c'est un tour de magie dans lequel il y a l'effet waouh à la fin.
Alors, je résume. L'année de vos 20 ans, vous abandonnez le droit, vous débarquez à Paris pour intégrer l'École supérieure de journalisme, l'ESJ, et vous contactez un groupe de... Alors, je ne connaissais pas le mot... myrmécologues, c'est ainsi qu'on appelle les spécialistes des fourmis, qui vont vous faire un cadeau absolument dément, une fourmilière entière, deux fourmis rousses des bois avec son terrarium, et puis ses reines, en tout 2000 individus et trois reines que vous allez installer dans la baignoire de votre petit studio, ou je ne sais pas, votre chambre de bonne parisienne. Et alors, c'est là Bernard Werber, après des jours et des jours d'observation, totalement fasciné, que vous allez réaliser qu'on peut distinguer, en fait, chez les fourmis, trois groupes exactement comme on peut les distinguer chez les humains. Premier groupe, les fourmis qui ne fichent rien. Elles se promènent, elles mangent, elles s'arrêtent pour se reposer. Deuxième groupe, les fourmis qui accomplissent des actes qui ne servent à rien, ou qui gênent même tout le monde, genre, elles transportent une brindille dans un couloir, mais la brindille bloque le passage des autres. Et troisième groupe, enfin, le dernier tiers, hyperactif, qui passe son temps à réparer les erreurs des autres, et qui ne cesse de travailler pour nourrir tout le monde, y compris celles qui ne travaillent pas. Bon, la fourmi, en fait, pratique la redistribution. La fourmi est socialiste. C'est ça ?
En tout cas, oui. Social, oui, socialiste, si on fait référence au Parti Socialiste Français,
on a le droit de sourire.
Disons que la fourmi a une structure qui ressemble beaucoup à notre structure de société. Je crois que dans la société humaine, globalement, il y a un tiers qui est inactif, entre les enfants, les personnes âgées, les chômeurs, je ne sais pas quel. Enfin, il n'y a pas de culpabilité derrière ce mot, c'est juste c'est des gens qui se retrouvent dans une situation où ils ne font rien. Il y a un groupe qui peut-être a un boulot, mais qui le fait très très mal. Ça fait déjà donc un tiers qui fait rien, un tiers qui fait des choses mal. Et un dernier tiers qui arrive à réparer les erreurs des deux autres, enfin, du deuxième tiers et l'absence d'action du premier. Alors, tel quel, politiquement, je reconnais que ça peut paraître bizarre et suspect. Donc c'est pour ça que l'avantage, c'est que j'en parlais au niveau des fourmis, parce que je l'ai observé.
Oui.
Maintenant, le parallèle avec société humaine, à la limite, c'est au lecteur de le faire. Mais
je ne pouvais pas résister.
Non, mais il me semble
parce
que
j'ai ri quand j'ai lu ce chapitre.
Mais ce qu'il y a, c'est que ça marche. C'est-à-dire que le système de la fourmilière avec ses deux tiers, comment dire, non productifs et un tiers productif, fonctionne. De même que je crois que la société humaine, avec une structure assez proche, fonctionne aussi. Pas trop mal. On est tous nourris, on arrive à vivre avec une moyenne, une espérance de vie de 80 ans. C'est quand même pas mal.
Cher Bernard, les fourmis ont fait votre gloire planétaire. Hein, les fourmis, et puis ensuite les chats, les abeilles. Vous empruntez ce trait à Jean de La Fontaine de mieux parler des humains quand vous mettez en fait en scène des animaux. Mais seriez-vous un petit peu misanthrope ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, je trouve que l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ma question, c'est comment faire pour que l'humanité survive longtemps et comment faire pour qu'elle ne détruise pas cette planète, ce qui est une vision vraiment loin et sur le long terme. Et je crois que la force de l'humanité, c'est sa diversité. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens différents pour arriver à trouver des réponses différentes. Mmh. Le danger, chaque fois qu'on voit apparaître un pouvoir politique qui cherche à nous rendre tous pareils, là, il faut commencer à réagir. Non, moi j'adore voyager, rencontrer des gens. Je ne peux pas rester chez moi, coupé du monde. Le matin, je vais au café, je vais discuter avec tout le monde, j'ai besoin de voir les autres. Non, misanthrope...
Vous n'êtes pas un auteur qui s'enferme.
Oui, et puis j'adore rencontrer les lecteurs, je fais les salons du livre.
Ah oui, mais on sait que vous voyagez énormément, parce que d'ailleurs, il y a eu la période de Covid, mais sinon l'Asie, c'est vraiment un terrain de prédilection. Vous êtes adulé en Asie, particulièrement en Corée du Sud d'ailleurs.
Mais c'est parce que j'ai pas essayé de faire un livre qui ne soit uniquement pour le public français. Quand j'ai écrit, j'avais l'idée que ça puisse toucher l'international. Il y a des fourmis en Corée, il y a des anges en Corée, il y a des rats, il y a des chats. C'est l'avantage des animaux, c'est que les animaux n'ont pas de nation.
Mais dites-nous, l'animal hors fiction que vous avez aimé le plus puissamment dans votre vie d'humain, c'est lequel ? Hors fiction.
L'animal avec qui j'ai un contact très bref et qui m'a énormément impressionné, c'est le dauphin.
Ah oui.
Et c'est une expérience que j'ai eue aux Açores en nageant avec des dauphins sauvages. Et notamment, j'ai eu une rencontre avec un beluga. On est resté à se fixer longtemps. sous l'eau. Et cette expérience m'a vraiment marquée. J'ai eu l'impression de me connecter à une entité qui avait une forme de spiritualité supérieure à la mienne. Oui. Qui avait une sorte de conscience plus forte que la mienne.
Et, vous avez ressenti ça?
Oui, comme si je rencontrais un vieux sage. Et c'était vraiment une rencontre comme si cet animal sauvage m'attendait depuis longtemps. Mais je ne peux pas expliquer plus, c'était un instant magique.
Alors retournons vers les fourmis qui ont fait de vous l'auteur français le plus lu dans le monde, Bernard Werber. À l'époque où vous étiez étudiant en journalisme, une marque de cigarettes proposa un concours inédit aux jeunes en mal d'aventure. Il s'agissait d'imaginer l'idée de reportage la plus originale et audacieuse possible, qui serait financée bien sûr si elle remportait le concours. Donc une fois de plus, les fourmis sont entrées en scène, mais pour pimenter le sujet, vous avez proposé un reportage sur les fourmis magnans, ces diables légendaires qu'on trouve en Afrique centrale et en Afrique orientale, et qui détruisent et dévorent absolument tout sur leur passage, les maisons, les animaux, jusqu'aux très jeunes enfants, c'est ça?
C'est un peu exagéré.
Il y a un tout petit peu de légende, mais voilà. On va dire qu'il ne faut pas laisser un bébé dans un berceau.
Voilà. En fait, ça avance à peu près, c'est une sorte de ruisseau avec des millions de fourmis qui avancent à peu près à la vitesse de 5 km/h. Donc 5 km/h,
c'est la marche d'un homme.
Voilà. On n'est pas poursuivi par un fleuve de fourmis. Et puis, non, c'est juste si quelqu'un se retrouve sur le chemin et ne peut pas se dégager parce qu'il est handicapé.
Est enlisé, par exemple.
Voilà, voilà. Là, à ce moment-là. Il peut être en danger. Il y a très peu de gens qui sont tués par ces fourmis. Même si elles passent dans les villages, elles font plutôt du nettoyage de tout ce qu'il y a comme morceaux de nourriture qu'elles tuent réellement les gens. Mais ce qui est impressionnant, c'est leur nombre. C'est vraiment comme un liquide. Et je suis rentré dans ce qu'on appelle un bivouac, c'est-à-dire elles s'arrêtent, elles fabriquent une sorte de nid temporaire. Et on était toute une équipe
avec les Sénégalais. Alors là, parce que la scène est tellement fabuleuse, il faut expliquer en amont pourquoi vous vous êtes retrouvé là-bas. Bien sûr, vous avez été l'un des trois lauréats avec une équipe du CNRS en mars 82. À l'âge donc de 21 ans, vous avez pris l'avion pour la Côte d'Ivoire. Et là commence, aux côtés du professeur Leroux, l'un des chapitres vraiment les plus palpitants de votre existence. Parce que armé d'un appareil photo très très lourd, réservé aux reporters de guerre, et puis accompagné des scientifiques français, qui eux étaient chaussés de grandes bottes d'égouttiers enduites de produits répulsifs, et ben vous allez vous aventurer dans la brousse à la rencontre de la fameuse colonne de fourmis magnantes, dont vous dites que c'est une rivière noire, bruissante, de millions de fourmis tueuses qui avancent de manière absolument inexorable. Et en fait, les fourmis magnantes, elles ont des mandibules comme des rasoirs, et quand elles s'accrochent à la chair de quelqu'un, on dit qu'il est impossible de les retirer, au point qu'on s'en sert d'ailleurs pour faire des points de suture.
Exactement. J'ai survécu, donc c'est pas à ce point. C'est
parce que c'est vous pas n'avez pas été. D'horreur. Non, mais vous n'avez pas été attaqué au milieu d'un océan.
J'étais recouvert de ces fourmis, mais elles ne. En fait, bon, j'explique dans le livre, c'est que le professeur Leroux m'a dit, il faut protéger tes orifices, donc les oreilles, les trous de nez, serrer les fesses, et puis se débrouiller pour qu'elles n'approchent pas de tout ce qui peut leur permettre de rentrer. Ce que j'ai fait, et j'avais une chemise avec des manches longues. Mais je n'avais pas les bonnes chaussures parce qu'il n'y avait pas, comme vous dites, il n'y avait pas ces bottes à ma taille. Donc j'avais des chaussures qui ne permettaient pas de les arrêter, alors que les autres.
Donc elles pouvaient se faufiler sous votre pantalon.
Ah, il y en avait, mais après, c'est comme j'ai pris la machette et je les enlevais comme s'il y avait un rasoir. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais aussi, c'est parce que c'était en légitime défense, c'est parce que j'essayais de prendre la photo de la reine. Et donc, en fait, j'ai réussi à avoir la photo de la reine qui est très grosse. Elle est grosse comme. J'allais dire un doigt, un peu plus qu'un doigt. Et pour avoir cette photo de la reine, évidemment, j'ai toutes excitées, elles essayaient de protéger leur reine. Il y a une seule reine.
Il faut expliquer, il y a une seule reine, effectivement, une reine mère pour 50 millions de fourmis. Oui. Et la reine, en fait, elle se trouve au centre de cette marée noire. Elle a sa loge royale, voilà. Et elle est totalement protégée. Donc, si quelqu'un pénètre à l'intérieur, essaye de repousser par milliers, comme ça, les fourmis qui la cernent, là, on est en danger. Elles s'agacent, les fourmis, c'est ça?
Vu que j'étais jeune, je considérais qu'il fallait la photo à tout prix. Et c'est en effet, c'est les personnes qui étaient avec moi qui m'ont sorti du trou, parce qu'on avait creusé un fossé pour retrouver cette loge royale, et qui m'ont dégagé. Et je crois qu'ils m'ont dégagé à temps, parce que là, je commençais vraiment à être submergé par les fourmis. Et j'étais vraiment en train de faire mes réglages d'appareil photo. Mais c'est une expérience forte. Et du coup, je crois que pour écrire un bon bouquin, il faut avoir vécu une expérience originale et émotionnellement puissante. On va dire que c'était une expérience originale et puissante. Et je pense qu'il était, il y avait un ton du coup dans les fourmis qui faisait qu'on comprenait que j'ai pas fait juste que lire des livres et observer des petites fourmilières.
Oui, parce que ça, on va le dire, ces photos, elles sont parues et même 4 pages dans l'événement du jeudi. Donc voilà. Tout ça existe et bien réel. Mais quand vous étiez au milieu de cette marée de millions de fourmis maniants en train d'essayer de trouver la reine mère et la mitrailler, c'était hypnotique. Parce qu'il paraît que tout le monde vous hurlait maintenant, il faut partir, c'est dangereux, maintenant vraiment reviens. Et vous, vous ne bougiez pas, vous continuiez de prendre des photos.
Alors tout à l'heure, je parlais de conscience, cet instant-là, je crois que j'étais inconscient, mais c'est nécessaire par moment pour avancer. Ça serait à refaire, peut-être que je réfléchirais à 2 fois, ou en tout cas j'attendrai qu'il y ait les bottes avec répulsif.
Alors, ces photos obtenues de haute lutte, effectivement, elles sont parues dans l'événement du jeudi. Mais avant, j'ai découvert, en lisant Mémoire d'une fourmi, votre nouveau livre, que des magazines à très gros tirage, auxquels vous veniez proposer donc les photos, vous avez fait la demande totalement surréaliste de retourner en Côte d'Ivoire pour amener des photos finalement beaucoup plus spectaculaires, où on voyait des fourmis maniants dévorer carrément des humains, ce qui aurait été beaucoup plus vendeur. C'est ça ? Des rédacteurs en chef ont osé vous dire ça ?
Non, c'est même pas les rédacteurs en chef, c'est les directeurs de la photo. C'est-à-dire, j'allais voir le responsable en général de la rubrique science des magazines qui me disait « Allez voir celui de la photo ». Et celui de la photo, en toute logique, bon, moi j'étais assez naïf, hein, 21 ans, mais en toute logique, ils m'ont dit bah, « Tes photos, bof, on voit des fourmis, quoi ». Ils m'ont dit « Il faut les voir en action ». Et bon, bah, j'avais pas une caméra pour
mais
me filmer moi-même.
Mais vous répondiez quoi lorsqu'on vous disait mais rapporte-nous des photos de fourmis qui dévorent des êtres humains.
J'allais voir un autre journal et puis donc l'événement du jeudi a eu la gentillesse de me publier à l'époque dans la version sans les images crado qui ont dit bon bah, c'est ton histoire qui est bien, c'est pas
bien sûr.
C'est pas forcément les photos.
Voilà, alors bravo l'événement du jeudi. Il paraît qu'une semaine après la parution donc, de ces photos, vous avez reçu une lettre du PDG d'Albin Michel, ouais, qui est depuis si longtemps votre maison d'édition. Mais bon, il vous a convoqué, rendez-vous, vous étiez fou de joie, vous vous êtes dit « ça y est, je vais enfin pouvoir publier ma saga de 1000 pages qui est prête ». Mais ça ne s'est pas du tout passé comme vous l'imaginiez.
Bah, c'est-à-dire que le patron, Francis Esménard, qui a tout de suite vu dans l'article, s'est dit « il y a un potentiel pour faire un livre », a eu le nez creux, il a trouvé la voie, si ce n'est qu'il m'a envoyé sur un de ses subalternes, un chef de collection, qui lui a dit « Ah, les fourmis, on veut un essai, on ne veut pas un roman ». Et moi j'ai dit « J'ai un roman, j'ai pas envie de faire un essai ».
Pourquoi ne voulait-il pas de roman ?
Parce qu'il pensait que c'était inintéressant de mettre des fourmis en scène, qu'il fallait juste en parler comme un scientifique, en disant « Regardez, elles font ci, elles font ça, elles font ça ». Et j'ai dit « Mais moi je vais me faire que j'ai déjà préparé donc ce roman sur les fourmis, mais c'est un roman dont les héros sont des fourmis ». Il m'a dit « ça ne nous intéresse pas, si vous voulez le publier, il faut repasser par la case départ, à savoir premier manuscrit ». J'ai envoyé chez Albin Michel le premier manuscrit, et j'ai reçu une lettre type de refus,
et
qui
attendez,
était ma troisième.
Voilà, c'est ça, c'était le troisième refus d'Albin Michel, chez qui plus tard, vous vendrez 30 millions de
mais
livres.
C'est surtout que ce chef de collection n'a pas signalé qu'il m'avait envoyé bouler. Donc, Francis Esménard croyait que le livre était en train de se constituer.
Mais c'est incroyable. Est-ce que vous l'avez recroisé, ce chef de collection qui n'a rien signalé ? Vous l'avez recroisé ou jamais ?
Non. Mais par contre, j'ai rencontré plus tard Francis Esménard et Richard Ducousset, qui sont les deux patrons d'Albin Michel. Et eux m'ont dit « on a envie de faire ce projet ». Avec vous, et on croit que c'est un sujet qui peut être vendeur. Et d'ailleurs, je crois que ça n'est tenu qu'à l'autorité de ces deux personnes. Sinon, même au sein de l'entreprise, Alain Michel disait « jamais ça marchera un roman sur les fourmis ».
Et c'est... puis en attendant d'ailleurs, après le troisième refus de la maison d'édition qui deviendra votre maison historique,
ouais,
et ben vous êtes parti en tant que journaliste scientifique au Nouvel Obs.
Voilà.
Voilà. Alors, bon, il faut lire le livre, parce qu'il y a vraiment des chapitres très, très savoureux sur l'ambiance qui régnait au Nouvel Obs, la ligne éditoriale du journal qui, il y a plus de 35 ans, était, on va dire, assez éloignée de ce que voilà, les journalistes et les rédacteurs en chef avaient, eux, dans la tête et dans le cœur. Et puis, un beau jour, heureusement, eh bien, une amie vous glisse à l'oreille Mais arrête de perdre ton temps dans le journalisme, Bernard. Ton truc à toi, ton vrai truc, c'est écrivain. Vous l'avez enfin écouté et votre vie, enfin, pu commencer, cher Bernard. Bon, nul n'est prophète en son pays. Vous êtes adulé à l'étranger, mais les médias français adorent vous égratigner, parfois. Pourquoi se méfie-t-on en France à ce point de la science-fiction ?
Parce qu'on considère que c'est un genre typiquement anglo-saxon et qu'il n'y a que les Américains qui savent faire de la science-fiction. On a oublié la tradition de Jules Verne, mais
Oui. Mais Pierre Boulle et Barjavel.
Voilà. Mais Jules Verne, à son époque, était considéré comme un auteur pour les enfants et il en souffrait beaucoup. Il rêvait de rentrer à l'Académie française, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et il ne comprenait pas pourquoi on ne le reconnaissait pas. Moi, j'ai compris, j'écris pour le public. Donc, en fait, ma situation me convient parfaitement. J'ai ce que je veux. Et en plus, il y avait une autre ambition, c'était que ce que j'écrive résiste au temps. Vous savez, il y a des auteurs qui sont à la mode et puis après, quand on les retrouve, on ne sait plus très bien pourquoi il y a eu cette mode. Et moi, je me dis, pourvu que c'est encore du sens, dans 10, dans 20, actuellement dans 30 ans, et à la limite que mes livres continuent d'être lus après ma mort. Je crois que dans la vie, de manière générale, on a ce qu'on veut. Maintenant, il faut être précis sur ce qu'on veut. Donc moi, les critiques ne m'intéressaient pas. J'étais au Nouvel Observateur, j'ai vu un peu comment ça se passait la rubrique littéraire, c'est un peu de l'entre-soi. Donc ça ne m'intéressait pas de faire partie de ce club de copains. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était de toucher le grand public, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai aucune frustration. Quelque part, j'allais dire, j'ai le destin que je souhaitais.
Mais alors, pourquoi à la science-fiction, préférez-vous la formule philosophie-fiction ?
Parce qu'à l'époque, par exemple, on parlait de Jules Verne, on pensait que la science allait sauver l'humanité. Et maintenant, on s'est aperçu que la science, pour reprendre la phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que si c'est entre de mauvaises mains, la science ne sert qu'à faire encore plus de dégâts. Donc c'est pas la science qui va nous sauver, mais c'est la spiritualité, c'est la conscience, et ça on le trouve dans une forme de sagesse. Donc philosophie, ça signifie j'aime la sagesse, et je crois que maintenant ce dont notre monde a besoin, c'est de philosophie, mais pas de philosophie des philosophes qu'on apprend à l'université, mais de philosophie dans le sens de retour à une forme d'évidence de qu'est-ce qui est réellement bien pour nous, pour nos enfants, pour la planète. Et ça, c'est ce que j'essaie de proposer comme réflexion à travers mes livres. C'est-à-dire se rappeler que nous sommes des animaux dans la nature et que la nature est le meilleur des professeurs.
Vous avez été surpris, Bernard Werber, ou peut-être pas, quand votre fils Jonathan a glissé entre vos mains la première fois le manuscrit d'un thriller sous forme d'enquête ésotérique sur le mystère des sœurs Fox au 19e siècle. Comment avez-vous réagi ?
Alors, j'étais surpris par le sujet parce qu'il a une formation d'ingénieur et de scénariste.
Mais oui.
Et il est très cartésien. Et donc, il a choisi un sujet sur les sœurs Fox qui sont celles qui ont créé tout ce qui est autour de la médiumnité. Donc, c'était en 1880. Elles ont été les premières à faire les tables tournantes et tout. Et c'était un phénomène aux États-Unis énorme, qui a inspiré d'ailleurs Victor Hugo, Conan Doyle, qui a inspiré plein de gens. Et qui en a fait son roman, qui est une enquête sur les sœurs Fox. Je me suis dit, il est en train de comprendre que la voie intéressante, c'est ni la science, ni la mystique, mais c'est le chemin entre les deux, c'est les passerelles. Mmh. Et je crois que j'ai l'impression qu'il est heureux en faisant ce qu'il fait. Là, il est en train de démarrer.
Il continue. Parce que les critiques du premier roman ont été très positives.
Voilà. Mais surtout, il est en train de comprendre que c'est un métier de plaisir. Mais j'allais dire, c'est moins ou mieux. C'est la version Werber 2.0. Mais pour une raison simple, c'est
ça. Ça, c'est formidable. Si Jonathan écoute cette émission, son père qui lui déclare, voilà, Jonathan, c'est moi au mieux.
Mais tout simplement parce qu'il est arrivé après moi et qu'il bénéficie de tout ce qu'il peut voir, comment ça a fonctionné pour moi. Donc, à partir de là,
il y va directement.
Voilà, j'ai posé un drapeau, il part de ce drapeau au lieu de redémarrer à zéro.
Vous nous avez parlé de notion de plaisir. Moi, je vais me permettre d'égratigner avec une question un petit peu pragmatique. Au-delà du talent de plume, qu'est-ce qu'il faut à un écrivain pour faire carrière ?
Régularité. C'est-à-dire, j'écris donc depuis l'âge de 16 ans, tous les matins, de 8h à 12h30. Et au moment où j'écris, c'est comme un muscle. Plus l'imagination, c'est comme un muscle. Ça. C'est-à-dire que plus vous l'utilisez, plus ça devient facile et agréable.
Il ne faut pas attendre d'être visité par l'inspiration.
Ah oui, exactement.
Ça se convoque, l'inspiration.
Exactement. Mais tout à l'heure, on parlait que ça avait démarré à 16 ans, mais à 16 ans, j'écrivais des mauvaises histoires. Mais c'est juste à force d'écrire des mauvaises histoires que j'ai commencé à comprendre comment l'améliorer. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le suspense. Mais le suspense, c'est à force de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est améliorable, que j'ai compris. Un bon livre, c'est un lieu dans lequel le lecteur va se dire « En fait, je suis un type formidable ». Lui.
Ouais, je tiens la caméra.
Voilà, pas l'auteur. Normalement, même l'auteur doit disparaître dans la mesure où il doit disparaître derrière ses personnages. Si dans un livre, vous dites qu'est-ce que cet écrivain écrit bien, ça veut dire qu'il écrit mal. Parce qu'il est visible et il est apparent.
Bernard Werber, depuis quelques années maintenant, vous montez sur scène, tel un conteur d'histoires extraordinaires, que vous avez enrichi d'ailleurs, ces histoires, d'expériences de méditation guidées avec les spectateurs. Pourquoi aviez-vous besoin de l'oralité devant un public? L'écrit ne suffisait plus?
C'est, comme vous l'avez dit, mon métier c'est conteur d'histoire. Et la tradition des conteurs d'histoire, si on la remonte à ses origines, c'est autour du feu. Et au moment où vous racontez l'histoire, vous branchez sur le groupe pour sentir est-ce qu'il est intéressé. Et quand j'écris un livre, je ne sais pas si j'intéresse les gens. Donc j'avais besoin de monter sur scène pour raconter des histoires, pour faire des guidances de méditation dans lesquelles je sens le groupe et je sens est-ce qu'ils sont là-bas, est-ce qu'ils me suivent.
Il faut nous expliquer parce que c'est un côté un petit peu fumeux, ça fait très gourou, guidance de méditation. C'est-à-dire concrètement...
Ah, j'ai fait hier soir.
C'est vrai, hier soir vous étiez sur scène. Ouais. Alors que proposez-vous aux spectateurs?
Alors d'abord, il faut signaler que je suis accompagné d'une harpiste qui joue sur une harpe celte, donc on est encore en plein dans les origines. Et ce que je propose aux gens, c'est de s'installer, de fermer les yeux. Par exemple, je leur propose de visualiser un endroit, une île, qu'ils vont faire surgir de l'océan, dans lequel ils vont, ce qui va être leur île, et dans lequel ils vont être bien. Et une fois que j'aurai fait visualiser cette île, je leur propose de rentrer à l'intérieur d'une cabane posée sur cette île et d'ouvrir un cahier sur lequel va apparaître une phrase de leur inconscient et de répondre à cette phrase. Et donc, cette guidance dure... 10 minutes, et après les gens racontent quelle phrase est apparue.
Mais vous les faites monter sur scène pour raconter
toute la salle. Toute la salle vit l'expérience, toute la salle ferme les yeux. Après, je dis qui a envie de raconter.
D'accord.
En général, sur les 250 personnes, il y en a 70% qui voient un message et il y en a 30% qui ne voient pas. D'ailleurs, je commence par dire sur qui ça n'a pas marché. Après, je dis sur qui ça a un peu marché, mais ce n'était pas clair. Et après, je dis sur qui ça a franchement marché et sur qui ça a franchement marché.
Qui veut vraiment nous en parler?
Et je dis qui a envie d'en parler. Et en général, je laisse raconter 3 personnes qui vont raconter ça. Mais après, je leur fais, par exemple, l'une des dernières méditations consiste à visualiser leur propre personne dans le futur qui a tout réussi. Et donc, ils rencontrent leur eux-mêmes très âgés qui est heureux, qui est épanoui, qui a tout réussi et qui va leur donner des conseils pour arriver à réussir.
Mais là, vous êtes comme un maître d'hypnose, parce que je sais que vous-même, vous pratiquez l'hypnose régressive. Mais là, bon, ces séances que vous appelez séances de méditation guidée...
En fait, c'est vraiment le compteur. C'est le travail du compteur. C'est juste que je leur propose de fermer les yeux. Donc, du coup, les gens peuvent associer ça à la méditation de l'hypnose. Mais en fait, si les gens veulent garder les yeux ouverts, ils ont toute leur libre-arbitre. Et s'ils ont envie de ne pas voir la cabane, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que c'est juste un rêve... guidé, c'est comme...
Un rêve éveillé.
Un rêve éveillé, voilà. Et c'est assez court. Donc, il y a 5 méditations qui doivent faire 10 minutes. Et c'est accompagné avec de la musique de la harpe qui est sublime, de Frank Kerr, qui est une harpiste extraordinaire. Et l'ensemble se fait dans la joie et la bonne humeur. C'est
le
pas du tout grave.
Le spectacle s'appelle Voyage intérieur.
Voyage intérieur. Le prochain spectacle aura lieu le 8 juin, donc au Théâtre des Trois Baudets. Et à partir de septembre, je passe à la Gaîté Montparnasse, avec une salle cette fois-ci du double de 400 places.
Mais c'est étonnant, parce que voilà, c'est une carrière parallèle.
J'ai l'impression que c'est une prolongation de mon travail d'écrivain. Et puis, vous savez,
en fait, vous êtes une sorte d'écrivain augmenté qui, à force d'interroger avec émerveillement les mondes parallèles, pardonnez-moi, mais... j'ai envie de dire, veut croire en la magie.
Oui, en tout cas, je crois que le métier d'écrivain tout seul est un métier trop solitaire. Si on reste seul devant sa machine, si on reste seul chez soi dans sa machine, on est coupé du monde. Et l'avantage, quand je monte sur scène, c'est que je me reconnecte à des gens qui ont envie de vivre cette expérience. En fait, je faisais déjà ça dans la cour d'école. Quand j'étais petit, je racontais déjà des blagues, je racontais déjà des histoires. La seule différence, c'est que là, je le propose de le faire dans une salle où ils ferment les yeux. C'est tout. Mais le principe du conteur est la clé de tout mon travail. C'est pour ça que le mot hypnose, j'aime pas trop même le mot de méditation, parce qu'ils sont connotés de tout un côté sulfureux.
Alors, on les dégage. Quel mot faut-il utiliser ?
Conteur.
Conteur.
Je suis un conteur qui propose aux gens de vivre les histoires un peu plus fort et de vivre des expériences où ils vont eux-mêmes se retrouver dans des situations inattendues. Je crois que je fais ces spectacles pour qu'ils retrouvent leur âme d'enfant. De la même manière que j'écris des livres pour amener les gens à un monde dans lequel on va à l'essentiel et on n'est pas dans juste l'intelligence, on est dans la conscience et la nature.
Mémoire d'une fourmi vient de paraître chez Albin Michel et on entre pour la première fois dans l'atelier d'écriture de Bernard Werber, voilà, dont les mots favoris sont justement émerveillement, félicité. Alors félicité, j'ai appris que ça venait des chats, félin, félide, félicité.
Heureux
voilà.
Comme un chat.
Heureux comme un chat. Vous l'êtes ?
Actuellement, oui. Il y a un autre mot aussi que j'aime bien, c'est curiosité. Vous savez, le contraire de la curiosité, c'est les gens qui croient tout savoir et qui sont blasés. Et tant qu'on est curieux, on est vivant. Dès le moment où on croit qu'on a tout compris, le monde se ferme et on stagne.
À très, très bientôt, Bernard Werber, promis.
Avec plaisir.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.